Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, c'est un travail monumental que nous offre Serge Audier, notre invité cette semaine. Philosophe, maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne, il nous propose une généalogie historique et philosophique, une histoire de la pensée en matière d'écologie et une histoire par là même des résistances qu'elle a toujours rencontrées. Cette réflexion dense a d'abord été développée dans un livre paru en 2017, « La société écologique et ses ennemis », publié aux éditions La Découverte. Dans celui-là, il examine, je le cite, « le rapport complexe et difficile que la gauche a entretenu tout au long de son histoire avec les problèmes environnementaux ». Puis dans un autre ouvrage qui vient lui de paraître chez le même éditeur sous le titre « L'âge productiviste », il analyse ses résistances à l'écologie, il y écrit notamment ceci. « L'avènement d'une société, ou plutôt d'une cité écologique, aura sans cesse rencontré des obstacles massifs. Ces obstacles sont largement dus à l'intériorisation d'une logique industrialiste prioritairement orientée vers la domination maximale du globe. Nous allons donc voir aujourd'hui pourquoi la pensée écologique, plus ancienne qu'on ne le croit, n'arrive pas à s'imposer dans ce nouveau numéro d'Idées, le magazine qui interroge, vous le savez, ce qui pense le monde, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio en tapant sur l'onglet podcast et sur l'application gratuite et très pratique d'ailleurs, RFI Pure Radio. Bonjour Serge Audier.
Bonjour.
Je suis ravi de vous interroger à propos de ces deux livres que je mentionnais à l'instant, qui sont des sommes considérables, plus de 1500 pages dans ces ouvrages. Alors votre analyse, Serge Audier, repose sur les grands auteurs, on va en citer que quelques-uns, mais vous êtes allé fouiller aussi dans les œuvres d'auteurs vraiment moins connus, voire inconnus en France et ailleurs.
Mais vous savez, on dit souvent l'histoire est écrite du point de vue des vainqueurs, c'est quand même assez vrai. Et le récit lui-même contribue en quelque sorte à l'hégémonie des vainqueurs. Et donc travailler, je suis pas le premier à le faire, sur les vaincus, sur les voix minoritaires, c'est toujours aussi s'interroger sur les rapports de force, tant dans la réalité que dans le monde intellectuel, qui ont présidé à l'ordre des choses tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc restituer les voix perdues, les voix invisibles, les voix minoritaires, c'est aussi voir que un certain nombre de possibles étaient déjà présents, mais que c'est possible, pour différentes raisons, n'ont pas pu éclore ou n'ont pas pu parvenir à une effectivité réelle. Et c'est précisément, de mon point de vue, ce qui s'est passé sur la question écologique, où des voix, y compris dans ce qu'on appelle, on pourra revenir sur cette catégorie, la gauche, des voix minoritaires, ont très tôt, c'est-à-dire dès le début de la révolution industrielle, vu les dégâts écologiques, les dégâts esthétiques, les dégâts moraux du capitalisme, et évidemment les dégâts sociaux du capitalisme, mais ces voix-là ont été minoritaires et j'essaye de comprendre à la fois ce qu'elles ont voulu dire et pourquoi ce qu'elles ont voulu dire a eu tant de mal à passer dans la réalité.
Alors, vous l'avez dit, Serge Audier, à l'instant, le problème au cœur de cette question, c'est le capitalisme.
Alors, c'est le capitalisme, mais je dirais que c'est pas seulement le capitalisme. Vous savez, il y a plusieurs récits. Il y a des récits qui disent que c'est l'anthropocène, donc c'est l'homme, anthropos, qui est un facteur géologique nouveau qui détruit la Terre. Il y a un nouveau type de paradigme qu'on appelle le capitalocène et qui consiste à dire que c'est pas l'homme ou l'humanité, mais le capitalisme depuis la révolution thermo-industrielle, mais aussi peut-être auparavant, qui est la cause majeure de la destruction de la planète. Mais personnellement, je serais enclin à élargir le spectre plus encore. C'est-à-dire que s'en tenir même à une critique du capitalisme comme tel, c'est peut-être passer à côté du fait que l'imaginaire industrialiste et l'imaginaire de domination de la planète, bien sûr, n'était pas seulement l'apanage des libéraux ou des néolibéraux, comme on le dit souvent, bien qu'ils aient joué un rôle important, mais était aussi porté par des courants qui étaient même des courants anticapitalistes. Et par conséquent, je pense que examiner l'histoire de la gauche, c'est aussi voir comment finalement le problème est encore beaucoup plus grave qu'on le dit.
C'est ça qui est intéressant dans votre livre, Serge Audier. Enfin, c'est une des sources d'intérêt de vos ouvrages, c'est que on s'aperçoit que les partisans et les opposants à la nature, je schématise, sont dans tous les camps en fait.
Voilà.
On peut pas dire à gauche on ne s'est pas occupé d'écologie, et à droite, pour reprendre la phrase de Ramuse, la nature est à droite. C'est pas possible de dire ça.
Voilà. Et puis en plus, à l'inverse, la conscience écologique s'est développée dans des camps extrêmement divers, c'est-à-dire de camps émancipateurs et républicains jusqu'à des camps qui sont du côté de la réaction ou du fascisme ou du national-socialisme. Et donc effectivement, la partition gauche-droite ne rend pas compte de ces questions, bien que je considère pour des raisons que je peux expliciter sous suite, qu'elle a un sens. C'est-à-dire que la clivage entre la gauche et la droite, tel que l'a explicité notamment l'intellectuel et philosophe Norberto Bobbio, c'est au fond un clivage sur la question de l'égalité, de mon point de vue. Et disons, pour dire les choses vite, que le curseur de l'égalité est mis en avant par la gauche plus que par la droite. Donc il y a un clivage important autour de la querelle de l'égalité entre la gauche et la droite, qui fait que aussi la question écologique a été pensée de manière différente selon que on est du point de vue de la gauche et du point de vue de la droite. Mais pour dire les choses clairement, en faisant une critique de la gauche, je ne dis pas que la droite n'a pas porté une responsabilité historique absolument majeure dans la catastrophe écologique, dans ses différents pôles, et notamment dans ses pôles libéraux et néolibéraux. Mais je dis aussi que ceux qu'on appelle la gauche, le camp du progrès, de l'émancipation et de l'égalité, portent elles-mêmes donc une responsabilité historique, tout en soulignant, et c'est ce qu'on a commencé à voir, que ce camp est lui-même clivé. Et pour dire les choses de manière simple, il y a une partie de cette gauche qui a très tôt vu qu'il y avait un très gros problème dans la religion industrielle, dans le culte de l'industrie, et qu'il y avait un problème peut-être même mortifère pour l'avenir de la vie sur Terre et en tout cas de l'humanité. Et il y a un pôle qui a été, de mon point de vue, dominant, dont on trouve des racines dans l'histoire, notamment, peut-être en reparlera-t-on, de Saint-Simon, du Saint-Simonisme. Il y a un pôle dominant qui, au fond, a imposé un culte de l'industrie. Mais si vous voulez dire c'est capitalisme ou non capitaliste, ne rend pas compte, à mon avis, de ce culte de l'industrie. Et ce culte de l'industrie, il pouvait être partagé d'ailleurs aussi bien par des libéraux que par des pré-socialistes. Et ils n'avaient pas la même vision de l'industrie.
Alors ce qui veut dire, Serge Audier, que ce débat autour de l'écologie a commencé avec la révolution industrielle.
Voilà, on pourrait même le faire remonter plus tôt. On pourrait faire le refaire remonter au moins à Jean-Jacques Rousseau, mais qui déjà voyait les débuts en quelque sorte de ce qui se jouait. Et Rousseau a été un des premiers à voir comment, au fond, l'humanité était rentrée dans un mauvais chemin de destruction de la Terre et aussi de mutilation de notre rapport au monde naturel et sensible. Et déjà, il y a une sensibilité à la destruction de la nature et une sensibilité romantique à la nature qui fait, à mon avis, de Rousseau un précurseur. Mais de fait, c'est quand même avec la révolution industrielle que les dégâts commencent à se voir de manière flagrante, et toute une histoire sociale a évidemment mis en avant les dégâts sociaux, les dégâts économiques du capitalisme, mais pendant très longtemps, des milliers de chercheurs sont passés très rapidement, voire ont totalement négligé la dimension environnementale et surtout la dimension de critique environnementale.
Et ça, c'est votre originalité, Serge Audier.
Je suis peut-être pas le
seul,
mais en tout cas,
je
suis de ceux qui exhument des voix minoritaires, pour dire les choses très clairement. Il y a eu, par exemple, tout un pôle anarchiste qui, très tôt, a compris que l'industrialisme capitaliste avait des effets de destruction, non seulement sur la personne humaine, de mutilation sur la personne humaine, mais avait des effets de destruction sur l'environnement du travail, sur l'environnement social et sur l'environnement naturel. Vous avez des courants qui étaient pourtant des progressistes américains ou français qui très tôt ont compris qu'il y avait un problème de raréfaction des ressources, mais aussi un problème, là encore, de destruction du cadre vital de l'humanité. Et donc, très tôt, un certain nombre de voix progressistes, entre guillemets, voient le problème. Et si j'insiste sur progressistes, c'est parce qu'il y a aussi des dichotomies, disant d'un côté, il y a les progressistes, ce sont des les apôtres du développement industriel, et de l'autre, il y a les conservateurs et les antiprogressistes. Eux ont vu très tôt les problèmes écologiques. Eh bien, je pense que même ce clivage est faux. C'est-à-dire que vous avez même un pôle de ce qu'on appelle la gauche, ou en tout cas le mouvement pour l'émancipation, qui était attaché au progrès, mais qui en même temps voyait que le développement industriel tel qu'il se déployait était catastrophique. Un bon exemple, c'est par exemple Élisée Reclus, qui commence à connaître une grande notoriété nouvelle maintenant.
Voilà. Reclus,
Élisée Reclus, c'était quelqu'un qui s'inscrivait dans la rationalité scientifique de la géographie moderne, mais qui en même temps, au nom même de la connaissance rationnelle de la géographie, voyait que l'homme était en train de détruire la nature. Et au début du volume sur le problème du productivisme, je cite un personnage complètement oublié qui s'appelle Schrader, qui était un géographe tout à fait reconnu, qui écrivait des manuels de vulgarisation, dont le père était un admirateur de Rousseau, justement, et qui était marqué par Reclus. Et Schrader, qui était une sommité au début du 19e siècle, il dit « Pourvu que l'âge industriel ne s'en prenne pas aux forêts vierges et à un certain nombre d'éléments de la nature, car nous pourrions détruire de manière irréversible le climat. » Et il dit au fond que l'âge industriel tel qu'il se déploie est en contradiction avec l'âge scientifique tel qu'il le conçoit. Et par conséquent, au sein même du rationalisme et des idéaux progressistes, on sentait qu'il y avait un très gros problème, mais malheureusement, c'est pour ça que je dis pourquoi ont-ils oublié Schrader, un peu comme Jacques Brel disait pourquoi ont-ils tué Jaurès. Eh bien, ils ont oublié Schrader et j'essaye de comprendre pourquoi.
Et ce qui est au cœur de ce débat, c'est le mot que vous avez utilisé, Serge Audier, c'est le productivisme. C'est le mot-clé.
Alors, quand je dis l'âge productiviste, je tiens tout de même à dire qu'on ne résume pas 2 siècles d'histoire humaine sous un label. C'est aussi l'âge démocratique à certains égards, c'est l'âge des Lumières, c'est l'âge de la science, mais j'ai insisté sur l'âge productiviste, ne serait-ce que parce que c'est précisément un des ismes les plus oubliés qui s'est imposé au début du XXe siècle de la part d'un industriel qui s'appelait Solvay, qui était un industriel très connu, philanthrope, progressiste, c'était un peu un libéral social, si vous voulez. Et Solvay, qui était donc un industriel belge, a mis en avant ce concept de productivisme pour dire au fond que l'époque actuelle, c'est-à-dire le début du XXe siècle, était au culte de la production maximale. Et au culte de la production, je dirais, la plus efficace possible et de la production maximale. Non seulement il fallait que la société vise la production maximale, mais je dirais qu'il fallait transformer toute la société, y compris les individus eux-mêmes, dans le sens d'une production maximale. Et au fond, productivisme, c'est la production pour la production. Mais j'ajoute, car précisément c'était un libéral social, et c'est toute l'histoire de la gauche, quelque part, c'est que s'il fallait valoriser la production la plus efficace et la plus maximale, si j'ose dire, possible, c'était pour produire le bien-être et pour produire aussi une société méritocratique où les plus productifs et les plus travailleurs et les plus méritants parviendraient aux situations les plus adéquates par rapport à leur effort. C'est-à-dire qu'au fond, le culte de la production est allé évidemment de pair dans la gauche avec l'idée que ça allait libérer l'humanité d'une servitude millénaire et produire l'abondance pour tous. Et par conséquent, c'était pas seulement un projet fou, c'était aussi un projet qui avait un certain noyau de rationalité, mais dont nous percevons maintenant les apories et les points aveugles.
On pourrait aussi parler, Serge Audier, du saint-simonisme.
Alors voilà,
un projet industriel, en quelque sorte, apporté à l'homme. Hein, Charles-Henri de Rouvroy de Saint-Simon.
Alors c'est très intéressant, parce que Solvay était passionné par le saint-simonisme, en fait. Et quand il rêve que les plus productifs, les plus méritants parviennent aux situations les meilleures, il s'inscrit dans un paradigme typiquement saint-simonien. Et de fait, Saint-Simon est un personnage fondamental dans l'histoire de la pensée occidentale, puisque c'est quelqu'un qui a imposé au début du 19e siècle une double vision. D'une part, il a imposé la vision au sein même du pré-socialisme, puisqu'il a beaucoup inspiré les socialistes, que nous étions dans l'âge de la science. Et il commence à pointer l'idée que le gouvernement des sociétés doit aller au savant. Et ça, c'est une première idée qui est très importante. La deuxième idée qui est très importante, c'est qu'il va imposer même l'idée de l'industrialisme. Et son idée, elle est intéressante parce qu'elle se conçoit chez lui au contact d'un certain nombre de penseurs libéraux, des disciples de Benjamin Constant, comme Dunoyer, Charles Comte. Et ces libéraux disaient, le nouvel âge, c'est l'âge de l'industrie. Parce que, au fond, ce sont les industriels qui doivent guider les destinées de la société. En plus, ils sont pacifiques, donc ils vont unir pacifiquement le globe au lieu de faire ces guerres absurdes. Et ces libéraux étaient pour la propriété privée, pour le libre marché et pour l'industrie telle qu'elle commençait à se déployer dans les usines du capitalisme de l'époque. Et Saint-Simon, au fond, reprend cette idée de l'industrialisme, mais il y ajoute une idée fondamentale dans l'histoire du socialisme. Oui, il est pour l'industrie et les industriels, mais non, il n'est pas d'accord avec les libéraux sur un point. Ce n'est pas seulement le libre marché et la libre initiative des individus qui doit guider les destinées de la société. C'est un mot capital pour lui, l'organisation. Il faut organiser la production. Et ça évoque, sans faire d'anachronisme, au fond tous les projets de planification industrielle qui seront au cœur de toute une partie de l'imaginaire de la gauche, qu'on aille de la gauche marxiste à la gauche keynésienne, si j'ose dire.
Alors justement, Serge Audier, parlons de Marx et d'Engels. Vous écrivez, s'il existe des éléments semblant attester d'un prométhéisme technologique chez Marx et Engels, il en est d'autres qui prouvent sans équivoque une sensibilité écologique forte. C'est pas la première image que l'on a quand on parle de Marx ou d'Engels.
Absolument pas.
Surtout qu'on est déformé, si j'ose dire, par ce qui s'est passé après.
Précisément.
En URSS.
En URSS, qui a été un désastre écologique.
Etc., voilà. Qui est un vrai désastre
écologique. Et de fait, pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait rien d'écologique chez Marx. Maintenant, il y a un peu une nouvelle mode dans les milieux qu'on appelle éco-socialistes et notamment académiques, qui consiste à dire absolument l'inverse. C'est-à-dire, on dit, mais en fait, Marx est le plus grand penseur de l'écologie et de l'éco-socialisme.
Ce qui saute pas aux yeux.
Ce qui saute pas aux yeux. Alors, il y a eu tout un travail, je dirais, d'exégèse, on a retrouvé tous les citations dans lesquelles, par exemple, Marx pointe la catastrophe de l'agriculture industrielle. Il dit que on est en train d'épuiser les travailleurs comme on est en train d'épuiser les sols. Il dit que « après moi, le déluge » est la devise des capitalistes. Il y a toute une analyse, finalement, du court-termisme de nos sociétés capitalistes qui sont en train de détruire les ouvriers et la nature. Mais en même temps, il y a un cadre analytique fondamental qui est, au fond, le cadre de la critique de l'exploitation capitaliste et du règne de la marchandise. Et donc on dit, ben voilà, Marx c'est vraiment l'éco-socialiste par excellence, et dans les milieux académiques c'est une thèse très à la mode. En même temps, je serais enclin à nuancer fortement. D'abord parce que Marx c'est quand même quelqu'un qui voulait transformer le monde. Et quand on veut transformer le monde, on regarde ce que ça donne, si j'ose dire. Et Marx ne pensait pas que sa pensée était purement spéculative. Le résultat du point de vue écologique est assez désastreux de mon point de vue. Oui. Pourquoi ? D'abord parce que vous l'avez dit, il y a une postérité de Marx qui a été très largement et très majoritairement une postérité, disons-le clairement, anti-écologique, qui pensait que le développement des forces productives était l'alpha et l'oméga, je dirais, d'un travail d'émancipation de la société. Ça voulait pas dire qu'il ne fallait que développer les forces productives. Le rêve marxien, c'était l'autogouvernement des producteurs, sauf qu'on sait que dans le marxisme et le communisme réel, ça a été surtout un étatisme et pas l'autogouvernement des producteurs. Mais donc, il y a premièrement une postérité. Cette postérité, elle est très anti-écologique. Je fais l'exégèse de beaucoup de textes des fondateurs de la social-démocratie allemande, où on lit des choses terrifiantes, notamment chez Bebel et chez d'autres, qui disent au fond on va changer les paysages, on va changer la terre. Ce sont des rêves démiurgiques délirants qu'on retrouvera dans le stalinisme, mais aussi avant le stalinisme, dans beaucoup de textes de Trotsky, qui rêvent vraiment de remodeler totalement le paysage et le climat. Rêves démiurgiques délirants. Eh bien, on le trouve déjà dans la social-démocratie allemande. Ma thèse est que ce délire de domination absolue de la Terre, il trouve quand même certains aspects ou certaines racines chez Marx lui-même. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il y a bien une sensibilité écologique, mais deuxièmement, il y a une thèse fondamentale de Marx qui fait son originalité fondamentale, selon moi, dans l'histoire du socialisme. Marx, comme vous le savez, voulait en finir avec ce qu'il appelait le socialisme utopique. Plus de rêves, plus de cités radieuses, on va au contraire avoir
réel.
Un socialisme réel et un socialisme scientifique. Ce socialisme scientifique, il dit quoi ? Il dit fondamentalement que le socialisme et l'avènement du communisme est au fond dans les entrailles des contradictions du capitalisme. Ce qui veut dire concrètement, et à mon avis c'est un legs de la philosophie de Hegel, mais fermons la parenthèse, ce qui veut dire concrètement que il faut en passer par là. Il faut en passer par le développement du capitalisme pour parvenir à l'avènement du communisme. D'une part parce que le capitalisme développe les forces productives comme jamais, d'autre part parce qu'il est en train de créer une mondialisation capitaliste. Or, pour Marx, le communisme dans un seul pays, ça n'existe pas. Le communisme doit advenir à l'échelle planétaire. Donc, il y a un moment fondamental du capitalisme qui, certes, doit être absolument dépassé, mais qui est absolument nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, est très remarquable dans le manifeste communiste au milieu du 19e siècle. En 1847-1848, ce manifeste communiste impose l'idée finalement que la bourgeoisie joue un rôle fondamental et nécessaire. Elle va être supprimée, elle s'auto-supprime elle-même, mais elle est nécessaire parce qu'elle développe les forces productives.
Alors ça, je dis, parcourons le temps, essayons d'avancer vers le XXe siècle. D'ailleurs, nous l'avons déjà évoqué. Vous développez très bien le débat d'idées qu'il y a autour de cette notion d'écologie lors de la Révolution russe, précisément, 1917, lors du New Deal de Roosevelt en 1933 aux États-Unis, bien sûr. Et vous parlez aussi abondamment de certains penseurs qui voient avec l'arrivée de ce capitalisme, de ce productivisme, le déclin. Et vous citez notamment Oswald Spengler, célèbre pour son déclin de l'Occident. Vous ne l'épargnez pas d'ailleurs dans vos pages. Hein. Vous dites que c'est une littérature un peu
boursouflée.
Mais lui croit que ça y est, avec ce tournant, l'Occident s'écroule, est en voie de d'écroulement. Et je trouve qu'il y a des résonances contemporaines.
Ah oui, il y a beaucoup de résonances contemporaines. D'ailleurs, Spengler est un auteur qui circule dans certains milieux conservateurs. Il a même, il va même faire l'objet, je crois, de rééditions. Et de fait, ce qui m'intéresse dans ce moment-là, c'est le moment de ce qu'on appelle, parfois de manière trop rapide, la révolution conservatrice. C'est d'ailleurs ce courant très complexe qui s'est développé sous l'Allemagne de Weimar, dont on dit parfois qu'il a anticipé, même si c'est faux, en partie faux et injuste, le national-socialisme, mais ce courant très complexe qui est, vous voulez, à la fois révolutionnaire et conservateur. Et dans cette mouvance, il y a toute une réminiscence de la pensée de Nietzsche, de la critique de la grande ville, de la critique de la rupture avec la terre. On peut citer Spengler, on peut citer Klages, on peut citer beaucoup d'auteurs qui, au fond, ont une sensibilité très profonde à la façon dont la modernité industrielle et même la modernité tout court est en train de détruire notre rapport à la nature et à la terre. Mais en même temps, c'est un discours, vous disiez, je ne les épargne pas, parce que c'est un discours très, je dirais, apocalyptique, très général, et qui emporte dans sa diatribe, si j'ose dire, énormément de choses, je dirais, la modernité tout entière, la modernité des droits de l'homme, la modernité de la démocratie libérale, tout y passe, en quelque sorte. Un certain nombre de ces auteurs de la Révolution conservatrices ne sont pas exempts d'antisémitisme. Et donc, on voit là s'affirmer une critique de la modernité, je dirais, tous azimuts. Et on trouve ça aussi dans certains aspects de l'idéologie fasciste, qui a un aspect très moderniste, le futurisme, mais qui a aussi un aspect très retour à la terre, etc. Et on retrouve ça aussi dans le péténisme, en un certain sens.
Alors justement, parlons-en, Serge Audier, de cette époque, milieu du XXe siècle. On ne parle plus aujourd'hui d'écologie, comme on en parlait, enfin d'écologie, j'emploie le terme contemporain, comme on en parlait avant les nazis. C'est-à-dire que le Hitler, le nazisme, qui a aussi mis en avant la nature, le culte du corps, gêne aujourd'hui, ou a gêné longtemps, après les penseurs de l'écologie.
Voilà, je pense qu'on a assisté...
Heidegger aussi, par exemple.
Bien entendu, et Heidegger a, on le sait maintenant, son adhésion au national-socialisme, son antisémitisme, mais aussi son incapacité, toute sa vie, à dire que la démocratie libérale, c'était quand même, avait quand même quelques aspects positifs, si j'ose dire. Et de fait, toute cette tendance qui trouve des résonances aujourd'hui ultra-conservatrices, voire réactionnaire, je dirais, a un double rapport à la gauche progressiste. Premièrement, dans les années 30, une immense partie de la gauche progressiste n'a plus de critique écologique du monde et voue un culte au développement des forces productives. Donc ça laisse un vide pour les milieux conservateurs et réactionnaires. Et le fait même que les milieux conservateurs et réactionnaires s'emparent de cette thématique a un effet répulsif, si j'ose dire, sur les forces progressives. C'est un cercle vicieux, si j'ose dire. Et effectivement, très longtemps a prédominé l'idée dans une partie de la gauche, ben, que parler de la nature, c'était réac, c'était pétainiste, c'était rance.
La terre ne ment pas, disait
Pétain. La terre ne ment pas. Il y a eu l'essai de Luc Ferry, évidemment, qui a pointé le fait que le national-socialiste, selon lui, avait posé les premières lois fondamentales de protection de la nature, ce qui est faux, par parenthèse, puisque j'essaye de montrer que tant aux États-Unis que en Russie même, et que dans d'autres pays, il y avait déjà des lois très importantes de protection de la nature, bien que très insuffisantes. Mais de fait, ça a eu un effet terriblement répulsif parce que vous citiez au début de l'émission cette fameuse phrase de Simone de Beauvoir citant l'écrivain conservateur suisse Ramuse, la nature est de droite. Et effectivement, pour une partie de la gauche, Simone de Beauvoir tout de même, et beaucoup d'autres, la nature était de droite. Parce que ce sont des cycles, parce que ça assigne l'homme et les sociétés à une forme de fixité, à des racines. Et la gauche était marquée par un imaginaire de l'arrachement, non seulement un arrachement du sujet libre, ça c'est typiquement l'existentialisme de Sartre et de Beauvoir, mais l'arrachement aussi du point de vue social historique, puisque c'était une mouvance très marquée par le progressisme marxiste. Et donc, toutes ces questions de la nature étaient regardées avec suspicion. Et c'est très intéressant parce que si vous regardez la suite de la philosophie française, pourtant on a changé complètement de mode philosophique avec le structuralisme, avec Michel Foucault, etc. Vous voyez que cette question est complètement évacuée à quelques exceptions près. Une des exceptions, c'est Lévi-Strauss, parce que Claude Lévi-Strauss était anthropologue, parce qu'il était marqué par un certain nombre de critiques conservatrices des années 30. Mais si vous voulez, si vous prenez quelqu'un comme Michel Foucault appréciait certaines critiques écologiques de la santé, mais pas pour des raisons écologiques fondamentalement, parce qu'il se méfiait des méga-institutions et parce que, au fond, ces méga-institutions étaient pour lui des formes de domination, d'asservissement, etc. Donc, une grande partie de la pensée française est passée complètement à côté de l'écologie, sauf quelques minoritaires dont on pourra peut-être parler, globalement, je dirais que la gauche avait un problème.
Alors, il nous faut parler de ces minoritaires que vous analysez parmi des milliers d'autres auteurs dans vos livres, dans vos deux livres, Serge Audier, mais il y en a un qui revient à la mode dans le débat intellectuel, et vous le citez abondamment, c'est Jacques Ellul.
Ah oui, alors Jacques Ellul est extrêmement intéressant, d'abord par son parcours. C'est quelqu'un qui s'est formé dans les années 30, et c'est quelqu'un qui s'est formé au contact d'un groupe qui sent le soufre, qui s'appelle Ordre Nouveau. Il n'était pas lié à Ordre Nouveau directement, mais il avait des relations avec Ordre Nouveau. Et Ordre Nouveau développait une critique radicale de la modernité, et notamment de la modernité industrielle et du productivisme, mais en même temps, Ordre Nouveau avait un culte un peu du terroir, des communautés. Il y a une fameuse lettre à Hitler extrêmement ambiguë d'Ordre Nouveau qui met extrêmement mal à l'aise. Ellul n'était pas de cette eau-là. Ellul appartenait à une autre mouvance dans le sud-ouest, qu'on a appelé parfois le personnalisme gascon avec son ami Charbonneau. Et il a développé très tôt l'idée du développement de la technique comme un processus qui, contrairement à ce que croyait la gauche progressiste, n'était pas, je dirais, facilement maîtrisable, avait ses propres logiques endogènes. Et surtout, il a développé une critique de la modernité comme développement de la technique et développement de la technique mutilant non seulement pour les individus, non seulement pour le cadre de vie, mais aussi pour la nature. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Ellul et Charbonneau sont des gens qui ont été très minoritaires. Les livres de Ellul étaient très peu relayés par la presse, même quand ils étaient publiés par Raymond Aron dans sa collection Liberté de l'esprit. Aux États-Unis, il a eu un peu plus de succès. Et c'est seulement dans les années 70, avec le développement d'une écologie politique, que là, il commence à inspirer un certain nombre d'écologistes politiques, les Amis de la Terre, etc. Donc, c'est des gens qui ont une très très longue traversée du désert parce qu'ils avaient une critique de la technique qui était perçue, je dirais, comme réactionnaire, en quelque sorte.
Et là, on sort du clivage simplifié droite-gauche avec lui.
Ah, avec lui, c'est tout à fait typique parce que d'abord, Ellul était quelqu'un difficilement situable dans les coordonnées de la droite et de la gauche. Il y avait des aspects, je dirais, conservateur dans la pensée de Jacques Ellul. Vous avez des critiques de la pilule chez Jacques Ellul, par exemple, qui pourraient faire tomber de leur chaise un certain nombre de gens en les lisant. Donc, il y a des aspects conservateurs tout à fait clairs chez Jacques Ellul. Et Jacques Ellul est quelqu'un qui a essayé de tracer une voie typique des années 30, c'est-à-dire, au fond, par-delà un certain nombre de clivages entre capitalisme et communisme, entre gauche et droite. Dans les années 70, quand même, il commence à se retrouver aurait un penchant pour un certain socialisme démocratique. Il a été marqué par le printemps de Prague, par la troisième voie tchécoslovaque. Il avait des contacts avec Cornelius Castoriadis, qui était plutôt un révolutionnaire de gauche. Mais je dirais qu'il est typique aussi de quelqu'un qui n'est pas assignable aux critères de la gauche et de la droite.
Ce qui est intéressant, c'est de noter Serge Audier, c'est que ces années 70 ont vu quand même émerger une vraie pensée sur l'écologie.
Alors d'abord, il y a un développement de l'écologie scientifique qui a une longue histoire, mais ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est la dimension politique plus que scientifique. Il y a l'émergence d'une pensée écologique liée quand même à des développements ou des transformations dans le réel. C'est-à-dire les années 60-70, c'est l'essoufflement, pour dire vite, du modèle fordiste, c'est le début de contestation radicale du modèle tayloriste-fordiste, c'est aussi un certain nombre de combats pour l'autogestion, un certain nombre de combats, par exemple en Italie, contre ce qu'on appelait la monétisation de la santé, c'est-à-dire on disait aux gens, ben, crevez ou ayez une santé dégradée, on vous donnera des primes et tout ira bien. Il y a un début de contestation, si vous voulez, du modèle qui consistait à considérer que les questions de santé ou les questions écologiques étaient des questions subalternes.
Donc il y a 68, évidemment, l'année 68, il y a 70, la première journée de la Terre.
Voilà, il y a la journée de la Terre en 70, il y a en 72 le grand colloque porté par l'ONU à Stockholm.
Et le rapport du Club de Rome.
Et il y a le
sur les limites de la croissance.
Voilà, et là j'essaye d'exhumer aussi les personnages qui ont joué un très grand rôle, notamment Alexander King et Aurelio Peccei, et parfois ils ont très mauvaise réputation parce qu'on dit c'était des industriels ou c'était des cerveaux de l'OCDE pour King, ce qui est vrai, mais enfin ils ont droit aussi de changer d'avis, si j'ose dire, et c'est des gens qui viennent du sérail industriel et du sérail du management industriel.
Donc ils étaient bien placés en quelque sorte.
Ils étaient bien placés pour voir qu'il y avait un très gros souci, et vous avez des textes de Peccei qui dit la voiture individuelle, il faut en finir avec ça quand même. Et donc d'un côté vous avez ces mouvements-là de 68 et ces mouvements, de l'élite, et d'autre part vous avez une écologie politique qui se développe en effet avec une pensée cohérente. Par exemple Ivan Illich, André Gors et beaucoup d'autres essayent vraiment de construire, Serge Moscovici essaye de construire une pensée de l'émancipation qui soit liée à la question de la nature. Et là de nouveau, si j'ose dire, la question écologique passe à gauche. Elle a été à gauche, si j'ose dire, avec l'anarchie au 19e siècle, avec Élisée Reclus. Eh bien, on assiste un peu à un revival, si vous voulez, de cette pensée pré-écologique du 19e siècle dans le contexte un peu libertaire, anti-autoritaire des années 70. Et ce qui est très important chez ces penseurs-là, notamment André Gortz et d'autres, c'est qu'au fond, l'émancipation des individus passe par leur capacité à retrouver aussi un contrôle de leur milieu de vie. Leur milieu de vie ne doit pas être dominée par l'accumulation capitaliste ou par l'État. Leur milieu de vie doit être dominé par eux-mêmes ou par leur collectivité. Et donc, la question de la liberté va de pair avec la question d'un nouveau rapport à son cadre social et à son cadre naturel. C'est l'époque aussi où on parle beaucoup du milieu de vie, de la qualité de vie. Et tout ça est lié, je dirais, à un mouvement d'émancipation et un mouvement pour la liberté.
Et il faut rappeler qu'en 1974, et là je parle de la France, il y a eu la première candidature d'un candidat écologiste en la personne de René Dumont. Donc à l'élection présidentielle de 1974, il a fait 1,32% des voix.
Oui.
Donc c'est peu, mais il y a eu quand même un geste politique là.
Il y a eu un geste politique, il y a eu quand même pas mal d'échos de sa candidature. Par parenthèse, Dumont était typiquement quelqu'un qui se situait plutôt dans l'orbite du socialisme, donc de la gauche là aussi. Et donc on voit un tournant à gauche de l'écologie politique. Les écologistes aussi ont quand même fait une percée aux élections municipales en 1977. Et quand même, ils commencent à mettre à l'agenda les questions du cadre de vie et les questions d'écologie. Mais en même temps, je dirais qu'ils sont hyper minoritaires, ils sont broyés, et la gauche, notamment communiste, alors la gauche communiste est dans un déni absolu de la crise écologique, le rapport de Rome est assassiné par le Parti communiste avec une violence inouïe en disant que c'est un coup tordu des élites mondialisées pour, au fond, faire souffrir les travailleurs dans l'austérité. Donc la question écologique complètement gommée par le PC qui est ultra-productiviste, et à l'intérieur du PS, il y a la deuxième deuxième gauche, la gauche autogestionnaire, qui a une sensibilité écologique, mais ça ne durera pas.
Et vous dites même que des intellectuels libéraux, prenons Raymond Aron, doutent aussi. Vous le citez dans le livre, vous citez des passages de certains de ces livres, les désillusions du progrès, par exemple, en 1965, où Raymond Aron doute.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que globalement...
Tout en étant favorable au système...
Globalement, les libéraux et les néolibéraux, disons-le clairement, et j'insiste beaucoup là-dessus à propos de leur combat contre le Club de Rome, puis contre toutes les régulations écologiques. Globalement, les libéraux et les néolibéraux sont très clairement pour la croissance, le développement des forces productives. Mais j'essaye de montrer qu'à l'intérieur même de la famille des libéraux, il y a quand même des esprits libres qui essayent de réfléchir. Même Raymond Aron, qui était plutôt un apôtre de l'industrialisme, à cette époque-là, se dit qu'il y a vraiment des problèmes. On a une interview qu'il a donnée totalement inconnue, où il dit qu'on va changer de régime de croissance, qu'on n'ira plus vers une course à la croissance, une course au taux de croissance. Il y a une sensibilité, je dirais, à un problème, en tout cas.
Et on va prendre le temps de le citer, oui. Puisque vous le faites dans le livre. Serge Audier, dans son livre, donc, Les désillusions du progrès en 1965, voici ce qu'écrit Raymond Aron. L'ère du temps nous offre les attendus du réquisitoire, la diffusion du savoir, la rationalisation des conduites, la rupture du contact avec la nature, la rigueur de la compétition capitaliste ou de l'émulation socialiste, la fureur de posséder des objets, la transfiguration des taux de croissance en valeur suprême, la manipulation des consommateurs, des citoyens, des consciences, même l'homme lui-même dégradé en moyen au service d'une technique devenue folle, à finalité indifféremment pacifique ou belliqueuse, la guerre ou l'abondance. On pourrait dire ça aujourd'hui?
Ben oui, tout à fait. Aron était un personnage complexe, travaillé par des contradictions. Il était aussi très ami de Bertrand de Jouvenel, qui est aussi un des pères de l'écologie politique et même du concept d'écologie politique. Et Bertrand de Jouvenel, lui, disait qu'il y avait un problème immense. Non seulement pour la conservation des ressources, mais dans sa discussion du Club de Rome, il disait, attention, la question de la conservation des ressources, c'est pas tout. C'est la question de la vie sur Terre qui est en jeu. Et donc, Jouvenel aussi était passé par le libéralisme. Jouvenel avait eu un parcours très complexe et au fond, il fait partie de ces consciences libres qui voyaient qu'il y avait un problème absolument énorme et qu'il fallait carrément changer de modèle, non seulement de société, mais même d'économie. Jouvenel était convaincu que les modèles dominants de la discipline économique allaient dans le mur parce qu'au fond, ils passaient à côté du substrat naturel et du substrat physique de nos activités économiques.
Dans votre généalogie, dans votre histoire, Serge Audier, vous parlez aussi de la réflexion autour contemporaine, autour de la démocratie écologique. Vous citez, vous analysez les travaux de Castoriadis, par exemple, sur cette démocratie d'évidence, et vous dites qu'aujourd'hui, il faut aller vers une citoyenneté démocratique et écologique. Le plus dur, c'est de concilier les deux.
Oui, parce que vous savez, il y a un certain nombre de théoriciens de l'écologie, notamment un très connu qui s'appelle Ophuls, qui disent qu'il y a une contradiction entre la démocratie et l'écologie, parce qu'au fond, les gens, ils vont spontanément voter par des choses qui favorisent leurs intérêts, leur niveau de vie, et par conséquent, il y a une contradiction entre la démocratie telle que nous la connaissons et l'écologie. En même temps, il faut bien avoir conscience que les régimes non démocratiques sont souvent des régimes productivistes, absolument destructeur de la nature, on le voit partout dans le monde aujourd'hui, et donc un régime autoritaire n'est absolument pas non plus la garantie d'une prise en compte du souci écologique. Au contraire, les régimes autoritaires peuvent être démagogiques, populistes, on le voit bien aujourd'hui. Donc à partir de là, je pense qu'il faut transformer l'idée démocratique et transformer la citoyenneté démocratique en incluant en quelque sorte les générations futures, les autres êtres sensibles, parce que les baleines, les orang-outans et d'autres êtres sensibles, mais aussi évidemment le cadre des interactions naturelles qui font que nous pouvons vivre sur Terre.
C'est ce que préconise par exemple un grand anthropologue qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps dans cette émission, Philippe Descola.
Voilà, par exemple, avec aussi tout un questionnement qui nous mènerait très loin sur le clivage nature-culture et dans quelle mesure ce clivage n'est pas lui-même un clivage historiquement institué. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette question de la démocratie et de l'écologie, c'est que au fond... nous ne partons pas de rien. Nous avons quand même dans les idéaux démocratiques et ce que j'appelle les idéaux républicains des idées de civisme, de vertu, d'intérêt général, de bien commun, qui déjà ouvre sur un horizon qui est un horizon qui va au-delà, si j'ose dire, de la simple maximisation des intérêts des individus. La question écologique, sous doute, nous confronte à quelque chose de nouveau. Donc il y a un saut. Mais il n'y a pas un saut, si je puis dire, vertigineux. Puisqu'au fond, à partir de nos idéaux de bien commun, d'intérêt général, nous pouvons essayer de reformuler précisément ces idéaux pour intégrer la biosphère, pour intégrer les générations futures, car finalement, il y a là un horizon possible, je crois, de reformulation et surtout de mise en pratique.
Mais il y a un débat là-dessus. C'est-à-dire, je reviens sur cette notion de démocratie et d'écologie. Certains parlent, par exemple, d'écologie punitive et se demandent si, avec la démocratie, on pourra arriver à changer les choses face au dérèglement climatique. Est-ce qu'il n'y aura pas, au contraire, la nécessité d'imposer les choses? C'est-à-dire d'avoir des politiques fortes, voire même non démocratiques.
Moi, je pense surtout qu'il faut conquérir une majorité intellectuelle, morale, sur ces questions. Parce qu'on le voit bien, imposer, ça ne marche pas, et ça marchera de moins en moins dans nos sociétés. Par conséquent, je crois que le travail, il est quand même un travail qui s'adresse à l'intelligence et à la moralité des gens. C'est peut-être très idéaliste.
Oui, parce qu'il y a, aujourd'hui, en tout cas en 2019, des pétitions qui sont signées par plus d'un million de personnes. Il y a des associations qui se créent. Il y a des jeunes qui descendent dans la rue en France et ailleurs pour la défense de l'environnement, pour parler comme cela. Et rien ne change. Enfin, je veux dire, sur le plan politique, on sent qu'il y a un blocage, d'évidence.
Oui, mais je pense que le mouvement est encore très faible au regard du défi qui est gigantesque. Moi, ce qui me frappe, et c'est ce que je dis un petit peu à la fin de mon livre, c'est que je suis frappé par la faiblesse des mouvements. On est quand même face à un défi absolument vertigineux et qui est profondément angoissant. Et finalement, je trouve qu'au regard de ce défi vertigineux, les mobilisations sont relativement faibles. Pourquoi ? Il faudrait essayer de l'analyser. Il y a sans doute plusieurs motivations ou mobiles. Je ne suis pas sûr que toute la planète ait conscience de la gravité de ce qui se prépare. Je veux dire par là que même du point de vue social, du point de vue du bien-être, on va au-devant de catastrophes absolument épouvantables sans jouer au catastrophisme. Et donc, je pense qu'il y a un travail de conscientisation, si j'ose dire, extrêmement important à mener à l'échelle de la planète pour faire comprendre que ce sont vraiment des problèmes cruciaux qui affectent la vie quotidienne des gens dans les décennies futures. Je pense qu'on est très loin du compte, en vérité. Donc, il faudrait, comme je le dis, des millions de gens dans la rue pour que ça bouge, et il faudrait une pression autrement importante. Or, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'il y a aussi une conversion culturelle, une conversion éthique à mener, et ce n'est pas évident, on le voit aujourd'hui.
Et ce qui est frappant, surtout après la lecture de vos deux livres, que je recommande évidemment, c'est l'incapacité de l'écologie politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui remonte à loin, que vous analysez dans vos ouvrages, mais l'écologie est incapable d'avoir une voix solide sur le plan politique.
Et oui, parce que justement, ma thèse, c'est qu'au fond, l'imaginaire productiviste est un imaginaire hégémonique et reste en grande partie, bien qu'on voit qu'on est vraiment là, on rentre dans une nouvelle époque, reste encore un imaginaire très très puissant, à droite, mais aussi dans une partie de la gauche, bien que les choses bougent. Donc ils ont...
Il y a toujours ce culte de la croissance, par exemple.
Voilà, la croissance, vous regardez les journaux télévisés ou autres, vous avez d'un côté, oh là là, c'est catastrophique, on va dans le mur, et juste après, oh là là, c'est catastrophique, la croissance n'est pas assez forte. Et
c'est
tout
un discours schizophrène.
Et juste vraiment. Après, vous avez des publicités pour des bagnoles à n'en plus finir. Donc, vous avez effectivement des contradictions absolument fondamentales qui font qu'il y a vraiment une transformation culturelle et une transformation de modèle qui doit être menée d'urgence. Mais donc, il y a d'abord ce modèle dominant qui est très puissant, et puis il y a eu une difficulté, je dirais, à articuler dans l'écologie, ce n'était pas facile, question écologique et question sociale. J'évoque un congrès pionnier en Italie du Parti communiste italien qui a été pionnier sur les questions écologiques dans les années 70, où il disait il faut convaincre les ouvriers que la question écologique est aussi une question sociale et que si on veut transformer les choses écologiquement, c'est aussi pour leur santé, c'est aussi pour leur bien-être et c'est aussi pour une meilleure société. Le PC italien avait vu le défi, articuler le social et l'écologique, et on en est encore à ces défis-là.
Et il y a un penseur, parmi les nombreux penseurs que vous citez dans le livre, il y a Hans Jonas, Le principe responsabilité, qui pourtant est un livre qui est encore très très actuel, mais il ne demeure qu'un livre.
Il a quand même inspiré en partie, mais en partie seulement, les écologistes allemands, quand même.
Oui.
Et les écologistes allemands ont quand même contribué à transformer un peu la situation allemande. Mais de fait, c'était un vrai philosophe qui a thématisé notamment la responsabilité pour les générations futures. Il a suscité des milliers de congrès et de publications, mais il n'a pas suscité autant de transformations. Pourquoi ? Ben parce que je dirais que toute notre vie est marquée par une forme de court-termisme et que au fond, penser aux générations futures, c'est très difficile psychologiquement et c'est très difficile eu égard au modèle culturel dominant. Et ce qui est nouveau de ce point de vue-là, on l'a vu récemment avec les manifestations des lycéens, c'est parce que quand même, on sent que ça approche vers nous. On n'est plus dans le temps long, mais on est presque dans le compte à rebours maintenant. Oui. Et donc, finalement, les jeunes femmes qui vont devenir mères dans les années futures, d'abord, elles-mêmes, si elles vivent centenaires, et même si elles ne vivent pas centenaires, peuvent être confrontées à des problèmes terribles. Mais évidemment, le fait même qu'elles enfantent des enfants est sans doute angoissant, parce que on ne sait pas vers quel avenir tout cela nous dirige. Donc, je dirais que le long terme est en train de nous revenir à la figure et est en train de devenir une question d'actualité. C'est peut-être là que se joue quelque chose de fondamental.
Et ce qui me frappe, Serge Audier, c'est qu'à travers le temps, depuis la fin du 18e, il y a toujours eu, et on en a évoqué certains, des lanceurs d'alerte, on dirait ça aujourd'hui, des penseurs qui ont vu les choses arriver, mais ils sont toujours restés, aussi bien à droite qu'à gauche, minoritaires, enfin, esselés.
Absolument, ils sont restés esselés parce que ils avaient pourtant des œuvres parfois considérables. Je cite notamment un progressiste américain qui s'appelle John Perkins Marsh, qui a écrit déjà des choses sur la destruction du globe par l'homme.
Tout est dit.
Je pense que, et pourtant c'était des gens reconnus académiquement ou en tout cas considérés comme sérieux, mais ce n'est pas passé parce que, une fois de plus, je pense que même chez les scientifiques, la dominante productiviste, le culte des forces productives, a été quelque chose de très important. Et là, je souligne notamment dans l'histoire du productivisme l'importance d'un certain nombre de scientifiques, notamment en Angleterre, qui vivaient dans ce culte du développement des forces productives, qui étaient fascinés par l'URSS, fascinés par les exploits de l'URSS. Et donc, au sein même de la communauté scientifique, une idéologie productiviste a été, à mon avis, extrêmement prégnante. Et on l'a vu même dans un certain nombre de milieux scientifiques climato-sceptiques, il y en a eu aussi quand même, qui étaient sans doute marqués culturellement par une idéologie productiviste.
Premier congrès dédié à la nature, congrès de Berne en 1913.
Et c'est absolument fascinant parce que ce congrès, en un sens, dit tout. Il dit que nous sommes en train de détruire beaucoup d'espèces animales fondamentales, que nous sommes en train de détruire notre environnement naturel. Il est apolitique parce qu'il est porté par des savants, mais il dit quand même que c'est la course au profit qui est le moteur de la destruction de la nature. Et par conséquent, il attaque dans son diagnostic la logique même de l'accumulation capitaliste.
Donc, on ne pourra vraiment pas dire qu'on ne savait pas.
Absolument pas dire qu'on ne savait pas, selon la fameuse formule du discours de Jacques Chirac. On savait depuis extrêmement longtemps, on pouvait savoir depuis extrêmement longtemps, et il y a un trait fondamental chez l'être humain, c'est le déni. Et le déni, eh bien, il a été individuel et collectif pendant de très très longues années. Nous en payons maintenant le prix, et souvent le déni, on le paye très cher.
Mais il y a quand même, soyons positifs pour terminer cette émission, il y a quand même donc cette nouvelle génération, on sent que quelque chose apparaît.
Oui, je suis très sensible au mouvement qui s'est développé avec les lycéens et avec les mouvements de grève, même si...
Par-delà les frontières, en tout cas l'Union européenne.
Et c'est très important ce par-delà les frontières. Pourquoi ? Ouais. Parce que premièrement, une partie de cette jeunesse se sent citoyenne du monde, a une sorte de cosmopolitisme foncier. Et cette jeunesse aussi est très sensible quand même aux enjeux environnementaux. On l'a dit souvent dépolitisée, ce qui est sans doute pas faux, mais sur la question écologique, elle n'est pas dépolitisée. Et ce double aspect cosmopolitique et écologique me semble d'autant plus fondamental que nous sommes dans une forme de course-poursuite entre d'une part cette sensibilité écologique et cosmopolitique et d'autre part une sensibilité, je dirais, nationaliste, xénophobe, dont on voit de plus en plus qu'elle s'articule à une forme de climato-scepticisme et, je dirais, d'indifférence écologique. Et donc, il y a une bataille en jeu. Et dans cette bataille, moi, je suis très mu par l'espérance, si j'ose dire, dans ce mouvement de la jeunesse et j'espère que ça va devenir un mouvement qui va grossir et qui va devenir un mouvement fondamental dans les années à venir.
Merci Serge Audier. Il faut prendre le temps de lire L'âge productiviste, hégémonie prométhéenne, brèche et alternative écologique, publié aux éditions La Découverte. C'est un livre d'histoire passionnant, histoire des idées 100 ans. Et lire aussi votre livre précédent, La société écologique et ses ennemis, pour une histoire alternative de l'émancipation, publié également aux éditions La Découverte. Merci.
Merci à vous.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante.
Idées au pluriel @rfi.fr.
Nous vous retrouvons samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Tout de suite, un concentré d'informations sur votre radio préférée.